Donc je remercie les organisateurs de ces journées. Je suis sensible à l'exemple et aux éléments de réflexion qu'ils donnent par leur propre pratique de recherche et par une éthique du travail intellectuel et du travail en sciences humaines aujourd'hui. Et je crois que le terme d'atelier s'applique bien à ce que vous faites. Donc je voudrais proposer quelques réflexions autour des pratiques savantes et effectivement en m'enracinant dans ce projet des lieux de savoir et en tentant d'en extraire quelques questions, je l'espère pertinentes pour ce qui vous réunit aujourd'hui. Je ne suis pas un spécialiste de Michel Foucault, mais Michel Foucault est à l'arrière-plan de mon projet. En fait, les lieux de savoir sont dédiés à deux Michel, Michel de Certeau et Michel Foucault. J'aurais bien aimé qu'il soit là pour travailler avec moi, mais bon, d'une certaine manière, je devine leur sourire, le rire de Foucault, en tout cas que j'entends parfois, à propos de mon entreprise. Donc, première image, Ferdinand Boll, portrait d'un mathématicien. Donc cet homme est vêtu de noir, il est appuyé sur une table de travail, il désigne de sa règle une figure tracée sur un tableau, deux triangles rectangles qui prennent appui sur le diamètre d'un demi-cercle, tandis que l'index tendu semble ponctuer l'évidence d'une démonstration. La figure se suffit à elle-même, n'appelle pas de légende, serein, offrant au spectateur la clé visuelle qui peut identifier son statut. Ce mathématicien invite à réfléchir sur l'exercice d'un savoir particulier où les opérations mentales et l'ordre du raisonnement prennent appui sur une inscription dont le tracé accompagne le traitement d'un problème, de sa formulation à sa résolution. Des lettres identifient les angles, les segments de lignes en différents points de la figure et participent donc de l'économie minimale d'un langage et d'une écriture mathématique. La figure schématique invite à penser une configuration indépendante de la taille et de la couleur de l'inscription, de même que les lettres situent le problème en dehors de toute référence empirique. Cette figure désigne, pour qui sait la lire, les trois lignes trigonométriques fondamentales, le sinus, le cosinus et la tangente, d'un angle ou d'un arc de cercle. Il s'agit d'une vue de l'esprit qui offre un support matériel à un exercice de la pensée, soit qu'elle accompagne le déroulement d'un raisonnement mis en discours, soit qu'elle résume ses étapes dans son évidence silencieuse. De cet exercice de pensée, nous ne voyons rien d'autre que le dessin qui le matérialise et que le mathématicien nous invite à regarder. Si on peut voir la seconde image. Voilà. Donc là, nous avons le portrait de Tommaso Inghirami par Raphaël. Donc, c'est un personnage qui est un grand lettré, un bon orateur, l'auteur d'une quantité d'ouvrages érudits sur les auteurs classiques. C'est le cardinal Tommaso Inghirami qui garda sa vie durant, et malgré lui, le surnom de Phaedra, Phèdre, que lui avait valu une interprétation impétueuse au théâtre, au temps de sa jeunesse, de l'héroïne de Sénèque. Il fut malgré cela nommé à la tête de la bibliothèque vaticane par le pape Jules II, et ce portrait le saisit en plein travail, ou plutôt en un instant de suspension. Plume figée entre les doigts, le savant quitte des yeux le papier sur lequel il écrit. C'est un moment de distraction ou de digression à la poursuite d'une idée, d'un mot, d'une citation peut-être. Le regard qui bifurque n'est pas seulement le rendu naturaliste d'un léger défaut visuel, il souligne aussi un mouvement de la pensée qui fait tourner le visage entier vers le haut, comme s'il fallait saisir au vol le fil d'une argumentation ou d'une tournure de phrase. Un livre grand ouvert est soutenu par deux autres fermés qui tiennent lieu de l'utrin et l'inclinent pour que sa lecture accompagne au mieux la rédaction en cours. L'avant-bras et le poignet de la main gauche maintiennent la double page ouverte. L'encrier, au plus près de la plume et du papier, mais à l'écart des livres, participe d'une économie du geste scripturaire, va-et-vient qui ne doit rompre qu'un seul instant l'inscription de la pensée. Nous trouvons ici les éléments d'une ergonomie du travail lettré, dont les différents instruments se distribuent sur la table selon des positionnements et des orientations adaptées aux opérations d'un savant qui doit enchaîner sur un espace réduit de multiples va-et-vient entre l'écriture et la lecture. Entre les mains et les yeux, entre les livres et la feuille de papier, entre l'imprimé et le manuscrit, se dessine le triangle de la lecture, de l'écriture et de la pensée, mais aussi les allers-retours entre le matériel et l'immatériel, le visible et l'invisible. Image suivante. Voilà, donc on va passer à la suivante encore. Donc une autre figure de savant dans un autre monde culturel, le philosophe japonais Motori Norigana, 1730-1801, au temps du shogunat des Tokugawa. Il est assis devant une table basse de forme rectangulaire. Il regarde devant lui, loin au-delà de la branche fleurie et sinueuse qui s'échappe d'un vase posé sur le sol. Sur la table, des livres fermés encadrent un livre ouvert dont on devine les colonnes d'écriture verticales. Deux livres fermés sont posés sur le sol, dans le prolongement de la table. Pas d'instrument d'écriture, nous sommes dans un moment de lecture et de réflexion. Cette estampe offre, elle aussi, une mise en scène du travail intellectuel, où les livres, soigneusement disposés, laissent imaginer les liens de complémentarité et de présupposition qui permettent de passer de l'un à l'autre. Les inflexions verticales de la branche sinueuse contrastent avec le strict ordonnancement horizontal des livres, comme si elles offraient un itinéraire et des bifurcations au regard contemplatif, guidant ainsi la pensée sur les chemins de la méditation. On va passer à la suivante. Voilà, donc ce sont des détails. Voilà. Donc nous sommes dans un tout autre univers, dans un laboratoire de biologie où une jeune femme, protégée par une blouse blanche, des gants bleus, un masque, de larges lunettes transparentes, manipule avec d'infinies précautions un tube transparent refermé par un bouchon bleu contenant peut-être une culture de virus ou de bactéries. Tout se joue entre le regard et les mains, dans un environnement fortement éclairé, sans doute pour éviter les erreurs d'identification ou de manipulation. Ce moment d'observation se situe face à un dispositif de stockage et de traitement des échantillons où des tubes sont reliés à des tuyaux souples. Nous sommes dans un laboratoire où des machines, des instruments, des techniques de prélèvement et de culture sont autant de médiations permettant d'observer, d'expérimenter et de comprendre. Les quatre situations dépeintes dans ces images définissent le champ et l'échelle de l'enquête collective que j'ai coordonnée dans le second volume des lieux de savoir, Les mains de l'intellect. Une hypothèse de travail générale sous-tend l'ensemble de ce projet, à savoir que les savoirs humains, considérés dans leur diversité culturelle et historique, comme dans leurs multiples domaines d'application, les sciences, les techniques, les spiritualités, les humanités, peuvent être étudiés comme des champs d'activité et d'expérience impliquant des acteurs, des pratiques et des objets, matériels ou immatériels. Nous considérons les savoirs du point de vue des opérations et des acteurs qui les construisent, plus qu'à travers les contenus auxquels ils aboutissent et auxquels on les identifie le plus souvent, théorèmes et théories, lois physiques, interprétations, ensemble de connaissances objectivées et dépersonnalisées. Au même titre que d'autres artefacts humains, les savoirs sont dès lors indissociables d'un ensemble de processus génératifs que l'on pourrait qualifier de savoir-faire. Par choix et sur un mode expérimental, nous nous situons provisoirement en deçà des procédures de validation qui définissent, dans un milieu social et culturel donné, différents régimes de vérité et de rationalité, les lignes de partage entre le vrai et le faux, entre le pensable et le non-sens, entre la science et son envers. Considérer les savoirs du point de vue de leur production, plus que comme des contenus objectivés, revient donc à étudier les pratiques savantes dans leur formalité, dans leur enchaînement, dans leur logique propre, sans préjuger de leurs résultats, ni les hiérarchiser ou les discriminer, selon les disciplines dont elles relèvent ou la légitimité des acteurs qui s'y adonnent. Dans cette perspective, la genèse des savoirs n'est pas envisagée comme un processus idéal, régi par la seule logique interne du développement d'une discipline ou par une dynamique téléologique qui serait le moteur de l'accumulation des connaissances et de leur progrès vers la vérité. Elle est saisie dans l'activité concrète des multiples acteurs, des plus humbles jusqu'aux plus grandes figures qui ont marqué l'histoire d'une discipline. L'activité savante n'est pas seulement un processus immatériel où les idées, les intuitions, les hypothèses surgiraient par génération spontanée en suivant leur logique propre et elle seulement, comme tendent souvent à le suggérer les fictions rétrospectives et les hagiographies des conditions de savoir et parfois l'autoreprésentation même des acteurs. Elle est étudiée aussi comme un ensemble de pratiques que l'on peut découper en gestes distincts dont la combinatoire définit autant de scénarios possibles du travail savant. Ces gestes comprennent aussi bien les postures du corps que l'adresse de la main, le maniement des mots et des signes que les opérations mentales, déterminées par les apprentissages et les normes en vigueur dans un milieu particulier. Il laisse cependant place aux variations individuelles, de même qu'une partition musicale se prête à de multiples interprétations scolaires et conformistes ou géniales. Pour filer un instant cette métaphore musicale, c'est l'interprétation qui m'intéresse davantage que la partition ou les catégories esthétiques et culturelles qui permettent de la situer plus ou moins haut dans une échelle de valeurs. L'interprétation est le résultat de l'ensemble des savoir-faire moteurs, sensoriels, mentaux, qui donnent au geste sur l'instrument ou à la voix sa précision, son amplitude, son expressivité, dans le respect des règles génériques d'une écriture musicale, comme de la partition particulière qui est exécutée, lue en temps réel ou préalablement mémorisée. Nous cherchons à observer la logique de ces gestes et de ces opérations avant d'écouter la musique elle-même. Dans les mille manières de produire du son ou du savoir, nous nous intéressons moins au savoir qu'aux gestes, même ceux qui, par leur routine et leur banalité, semblent les plus éloignés de la création intellectuelle. Ce que nous perdons en ne nous attachant pas d'emblée aux idées, aux concepts et aux découvertes, nous le gagnons sur le plan d'une anthropologie historique et en reliant ces gestes et ces opérations au continuum de l'activité humaine, en un temps, un lieu et une société donnée. Nous faisons ainsi le choix de situer les savoirs au cœur des sciences sociales d'aujourd'hui, de les enrichir des multiples questionnements de l'histoire culturelle, de la sociologie et de l'anthropologie sur la notion de pratique. Quelques jalons qui ont constitué l'horizon théorique de notre démarche. Premier jalon. Au fil de son œuvre, Pierre Bourdieu s'est attaché à construire la théorie de ce sens pratique qui inspire aux acteurs d'un champ social donné des modes de comportement et d'interaction qui lui sont parfaitement adaptés, échappant à l'élaboration consciente, car procédant d'une maîtrise intuitive et si incorporée qu'elle en paraît innée des codes et des règles du jeu. Chaque champ détermine un habitus spécifique, une manière d'être, une prédisposition qui confère aux acteurs la maîtrise pratique et quasi instinctive des règles d'un jeu social particulier. Dans son analyse du monde universitaire, Bourdieu a ainsi montré comment l'habitus des élites académiques conditionnait les modalités des échanges, des conduites, des alliances, des lignes de fracture, comme les modes d'autoreprésentation et de reproduction des différents clans de la communauté, classiques ou modernistes, dominants ou dominés. Les pratiques savantes sont l'un des lieux où se conquiert, puis où s'affirme l'appartenance à un groupe ou un milieu professionnel particulier, par l'intériorisation de ses normes et de ses valeurs, par la naturalisation d'un ensemble d'artifices et de techniques qui deviennent des signes identitaires autant que des marqueurs de compétences. On peut penser par exemple aux normes de composition des dissertations de littérature française ou de philosophie, aux qualités d'élocution et d'expression dans les épreuves orales des concours, aux qualités structurelles et formelles exigées des thèses, etc. Les impétrants à un statut académique doivent prouver leur conformité à un modèle intellectuel et rhétorique, autant qu'éthique et social. Leur incorporation d'un habitus fait d'aisance, de brillant, de civilité et de savoir discret. Selon les institutions et les disciplines, selon les écoles de pensée et les clivages politiques, ces normes diffèrent au fil de subtils clivages et s'acquièrent par l'imitation des pères et des maîtres, par le déploiement d'un réseau d'alliances intellectuelles dont l'inscription en pointillé dans les notes et les références de bas de page sera immédiatement signifiante pour l'œil exercé. Les pratiques savantes, comme le tennis, le golf ou les manières de table, inscrivent ainsi les acteurs dans un monde social particulier où ils ont toute liberté d'agir à condition de ne jamais enfreindre les règles du jeu. Second jalon, l'œuvre toujours vivante de Michel de Certeau, en particulier les chapitres du premier volume de l'Invention du quotidien. Dans ce volet théorique d'une enquête plus large menée avec Lugiard et Pierre Mayol, Certeau se propose de réévaluer les pratiques culturelles de l'homme ordinaire et de dégager la part de créativité et de liberté propre à la position de récepteur, c'est-à-dire de consommateur, de lecteur, de spectateur, face aux prescripteurs de sens et aux clercs en tout genre. ces pratiques du quotidien mettent en jeu la force des faibles, leurs ruses, leurs tactiques, contre la stratégie de ceux qui se réclament d'un lieu propre. Elles inventent des cheminements imprévisibles et créatifs et permettent le détournement et la réappropriation des savoirs et des signes. Elles ont leur formalité propre, leur phrasé singulier, dû aux bricolages inventifs qui en déterminent les trajectoires, une logique qui sous-tend leurs arts de dire et leurs arts de faire. Ces pages fondatrices ont ouvert de multiples perspectives de recherche dans les champs les plus divers, de la sociologie du quotidien à l'urbanisme, de l'étude des médias à une histoire culturelle et littéraire, attentive aux formes d'appropriation et de circulation des œuvres, comme à la gamme des pratiques éditoriales et commerciales qui transforment un texte en livre. 30 ans après, leur force d'inspiration reste intacte pour un projet d'histoire des pratiques savantes. Certeau nous invite d'abord à penser, à reconnaître la place des sans-grades et des obscurs, des anonymes qui ne sont pas rentrés au panthéon des savoirs, mais qui en sont des relais, des auxiliaires, des récepteurs, les maîtres, les étudiants, les amateurs, les curieux. Loin d'être dans une position de soumission à l'autorité intellectuelle et institutionnelle, ces acteurs sont souvent des braconniers qui glanent à la surface des textes, déambulent entre les rayons des bibliothèques, circulent entre les savoirs et s'approprient les mots, les idées et les connaissances d'une manière créative et originale, y compris à travers le contresens et le détournement. Mais Certeau nous inspire une autre question. Les pratiques savantes, dans leur ensemble, ne relèvent-elles pas de ces arts de dire et de faire où la ruse et la tactique jouent un rôle si important ? On pense naturellement à ces formes d'interaction savante que sont la polémique, la critique, la persuasion, la dialectique, le blindage d'une argumentation ou d'une démonstration pour les mettre hors de portée des attaques d'un opposant. Qu'il s'agisse de joutes oratoires ou d'échanges plus distanciés mis en scène dans les multiples registres de l'écrit, les formes de la discussion savante, le rapport aux prédécesseurs, la réfutation des objections participent d'un savoir-faire tactique où les différents coups doivent être portés au bon moment de la partie. Mais allons plus loin. Un mathématicien face à un problème à résoudre, un biologiste ou un physicien en laboratoire face à un phénomène à comprendre, un médecin face à un corps en souffrance, un sculpteur face à un bloc de pierre ou un charpentier devant des poutres à assembler, un philologue ou un commentateur face à un texte à établir et à expliquer, un historien face à ses sources, un traducteur circulant entre les langues, un géographe devant une carte ou un paysage, un anthropologue confronté à l'altérité. Ces différents acteurs et bien d'autres sont à la fois à l'intérieur d'un lieu disciplinaire, avec sa bibliothèque, ses règles de l'art, ses catégories, ses concepts et ses protocoles, et dans une situation empirique qui demande de choisir une tactique dans l'approche et le positionnement, de mobiliser une inventivité, la capacité de passer du générique au particulier, de recourir à des tours de main, des procédures validées par l'expérience personnelle. Il s'agit à chaque fois de contourner, de vaincre par les ruses de la main ou de la pensée, l'entêtement des faits, les résistances de la matière, les pièges du visible et de l'invisible, des mots, des nombres et des concepts. Comme un musicien qui improvise au piano ou à la guitare, selon la belle image que choisit Michel de Certeau également, le praticien des savoirs évolue à l'intérieur d'un ensemble de codes et de règles, parmi lesquels il a la liberté de jouer une combinaison inédite de coups, adaptée à une circonstance particulière. Le travail de la main et de l'esprit, le maniement des mots et des outils dans l'atelier, le laboratoire, la bibliothèque ou face à l'ordinateur personnel, peuvent ainsi être conçus comme des arts de faire où s'enchaînent les coups et les opérations, où se succèdent les gestes et les positionnements, selon les multiples règles des jeux de savoir. Troisième jalon de notre horizon, et j'irai plus vite pour gagner du temps, l'anthropologie des pratiques et des savoirs. Les travaux de terrain des anthropologues, en effet, nous ont inspiré des grilles de questionnement et d'observation attentives à la mise en scène sociale des pratiques, à leurs multiples dimensions, corporelles, gestuelles, vocales, à leur ritualisation et leur sémantisation, dissimulées sous des apparences routinières et machinales. Ils nous ont appris à ouvrir les yeux sur la syntaxe des gestes, du maniement des instruments et des matériaux, sur leur formalité, sur les traditions et les enjeux qui les sous-tendent, sur leur mode d'acquisition et de transmission, où le langage joue un rôle secondaire par rapport à l'observation silencieuse, à l'expérience lentement acquise dans l'apprentissage auprès de celles et ceux qui savent faire, et je dirais l'expérience également acquise dans la lecture des maîtres. J'avais deux références à développer, c'est d'une part un livre ancien, celui d'Yvonne Verdier, qui s'appelle « Façon de dire, façon de faire, la laveuse, la couturière, la cuisinière ». C'est un livre publié chez Gallimard en 79, et qui, malgré le terrain ethnographique particulier de cette enquête, un village de Côte d'Or, et malgré les savoir-faire qui sont analysés, les savoir-faire de la laveuse, de la couturière et de la cuisinière, sont d'un immense apport pour la compréhension des pratiques savantes. Une seconde référence, l'éclectisme et de règles, est la première livraison des cahiers d'anthropologie sociale qui nous a livré une réflexion tout à fait passionnante sur la transmission des savoir-faire dans différentes cultures. La précision et la technicité des gestes d'artisans, de potiers, de forgerons, de sculpteurs, comme les savoirs intuitifs des bergers ou des chasseurs, résistent au langage et la description, non seulement dans les sociétés où ils sont pratiqués, mais aussi dans la langue et les catégories de l'observateur extérieur. Ces approches anthropologiques nous ont ouvert de multiples horizons pour l'étude des pratiques savantes. Elles invitent à réduire le hiatus entre les pratiques de la main et les pratiques de l'intellect, ou plus exactement à penser le continuum qui les relie. Elles posent la question des modes d'apprentissage et d'acquisition, de la dimension corporatiste et identitaire des pratiques, comme de leurs variations individuelles. Elles construisent enfin un paradigme de l'observation où les savoir-faire et les pratiques sont étudiés en eux-mêmes, dans leur formalité et leur déroulement, indépendamment des artefacts qu'ils produisent. Dans un texte fameux, Marcel Mauss a défini le programme d'une enquête ethnographique comparative sur les techniques du corps, la mobilité, la gestuelle, l'adresse, l'habileté, tous les positionnements du repos ou de l'action, en tant qu'ils résultent de conditionnements sociaux et culturels, en tant qu'ils sont transmis par des traditions et façonnés par des apprentissages. Ils varient selon le sexe, selon l'âge, selon la spécialisation professionnelle, et peuvent même évoluer au cours d'une même génération. Le corps humain tout entier peut dès lors être considéré comme un instrument, manié selon des normes et des savoir-faire qui régulent tous les moments de la vie intime ou sociale. Le projet des lieux de savoir, et en particulier ce second volume sur les pratiques savantes, a voulu tenter d'éclairer les postures du corps mobilisées dans les savoir-faire manuels comme dans le travail intellectuel, les postures du corps pensif ou méditatif, les mouvements de la main qui manipule ou écrit, les mille manières de tenir un livre, une tablette, un rouleau de papyrus, de manier des instruments ou des outils, ou encore de faire glisser une souris pour manipuler les objets virtuels affichés sur un écran. Nous posons donc l'hypothèse que les savoir-faire jouent un rôle essentiel dans la production, la diffusion et la transmission des savoirs, et que loin de constituer un à côté anecdotique, ils en sont les principes d'intelligibilité autant que d'historicisation, car ils en déterminent la forme, les contenus et les effets. Mais peut-on appliquer à une communauté savante ou à un savant le type d'enquête menée par Yvonne Verdier dans un village de Côte d'Or, ou encore les enquêtes menées par les anthropologues contemporains sur des sociétés africaines, amazoniennes ou d'autres? Le projet d'une anthropologie des pratiques savantes s'enracine, je crois, notamment dans les enquêtes ethnographiques sur les laboratoires scientifiques contemporains, caractéristiques des science studies anglo-saxonnes. L'un des textes fondateurs est le livre de Bruno Latour et Steve Woolgar, « La vie de laboratoire, la production des faits scientifiques », d'abord publié aux États-Unis en 1979, puis traduit en français en 1988. Il s'appuie sur une enquête menée sur un laboratoire de neuro-endocrinologie à l'université de San Diego, en Californie. Les deux auteurs étaient totalement étrangers à ce domaine de connaissances. Ils ont observé les activités et les interactions des chercheurs comme celles d'une très étrange tribu vivant dans un monde reculé dont le langage était absolument hermétique. Ils se sont attachés aux gestes, aux déambulations, aux procédures d'expérimentation, à la manipulation des instruments et des échantillons, aux différentes formes d'inscriptions produites en cours de route. se sont ainsi dévoilés les multiples aspects d'un travail de recherche dans le domaine des sciences dures, des plus anodins aux plus décisifs. Un laboratoire scientifique avec son unité de lieu et de temps, ses machines, ses instruments, ses procédures de mesure et d'expérimentation et sa distribution des tâches entre techniciens, personnel administratif, post-doc, chercheurs, se prête parfaitement à ce type d'enquête menée par des observateurs extérieurs qui pouvaient s'intéresser aux gestes et aux pratiques des acteurs sans les hiérarchiser ni les sémantiser a priori. Plus difficile est sans doute l'observation des pratiques dans le champ disciplinaire auquel on appartient soi-même. La distance, creusée par l'altérité de la situation observée, n'existe plus, et le savoir partagé par l'observateur et les sujets de l'observation peut générer des angles morts ou des distorsions. Il est plus naturel de passer des pratiques au contenu, des opérations au concept, de la description à l'explication, pour un historien observant d'autres historiens, ou pour un philosophe observant un autre philosophe. Comment peut-on, en revanche, appliquer ce protocole d'enquête, d'observation, à des situations, des acteurs ou des pratiques du passé qui se refusent désormais à une observation directe ? C'est le cas, malheureusement, pour Michel Foucault. L'observation directe est désormais impossible. Nous dépendons des documents écrits, iconographiques ou matériels, des témoignages oraux, qui sont autant de médiations et de miroirs par rapport aux pratiques que l'on voudrait identifier. La médiation des sources, leurs effets de construction et de distorsion deviennent elles-mêmes un objet d'enquête. On interroge leur point de vue, leurs effets pragmatiques, on recoupe les informations qu'elles livrent pour mettre en lumière les silences, les présupposés, les fictions, comme les topiques qui les charpentent. Un portrait de savant au travail ou une photo de laboratoire témoigne de normes de représentation et d'auto-représentation sociale. Un écrit réflexif ou autobiographique reflète un choix de mise en scène comme un jeu de positionnement par rapport aux normes et aux valeurs d'une communauté savante. Les ouvrages savants proposant des considérations méthodologiques et réflexives sont souvent eux-mêmes gouvernés par des stratégies apologétiques ou polémiques quand ils ne proposent pas une fiction rétrospective sur leur propre genèse. Cette fiction, précisément, est un précieux révélateur des représentations partagées du travail savant, de ses valeurs, de son scénario idéal, comme des jeux de positionnement et d'autodéfinition de son auteur et de ses destinataires implicites. On peut cependant aller plus loin et considérer que les artefacts, les textes, les discours, les différentes formes d'inscription gardent la mémoire des opérations qui les ont produits, de même qu'ils anticipent et programment celles qui vont susciter chez leurs destinataires selon des degrés variables de réflexivité et de prévisibilité. Un écrit historique, un globe céleste, une classification naturaliste, un schéma logique, une argumentation, un commentaire, une communication de colloque, pour ne prendre que quelques exemples, sont des dispositifs actifs, des interfaces entre les opérations de leurs producteurs et celles de leurs récepteurs. Ce sont autant de lieux de savoir où s'encodent des raisonnements, où se formulent des idées, où se fixent des connaissances et se valident des hypothèses, où s'objective une pensée. La matérialité comme l'organisation formelle de ces dispositifs et parfois les instructions explicites qui les accompagnent nous mettent sur la voie de leur efficacité pragmatique, de ce qu'ils permettent de faire, de penser et de comprendre dans une discipline, dans une langue et dans un contexte socioculturel particulier. Les schémas, les diagrammes, les maquettes, les tableaux, les cartes sont autant de dispositifs efficaces se prêtant à des opérations de calcul, de comparaison, de corrélation et de modélisation. Mais peut-on aller plus loin et s'approcher davantage encore des opérations savantes, des opérations intellectuelles? Je voudrais, pour conclure, essayer de reformuler l'hypothèse centrale que nous avons essayé de développer dans ce second volume des lieux de savoir, intitulé « Les mains de l'intellect », et m'arrêter un instant sur cette métaphore « les mains de l'intellect ». Notre projet dans la diachronie historique et la comparaison culturelle a été d'analyser un certain nombre de situations ou de dispositifs alliant le geste et la pensée, les mains et l'intelligence, les mains de l'intelligence et l'intelligence des mains. Les mains sont centrales dans la fabrication et le maniement de l'outil. Elles sont aussi un instrument de conquête intellectuelle du monde par leur aptitude à désigner, à pointer, à appréhender différentes composantes du visible et de l'invisible, à en saisir les propriétés, autant de préalables à la nomination, à la catégorisation et à la description. Les mains permettent ou accompagnent également les premières opérations du compute. On compte sur ses doigts et de mesure. Leur écart horizontal ou vertical permet de moduler les dimensions d'un objet présent ou absent. Les mains servent à donner la jauge d'un objet ou d'une réalité. Les mains viennent aussi accompagner, ponctuer le discours, en définir l'ampleur et le rythme, en appuyer les effets persuasifs ou dramatiques. La gestuelle participe de l'actio-oratoire où la voix et le corps apportent un surcroît de sens au discours. Les mains jouent aussi un rôle dans le théâtre de la pensée en accompagnant le déroulement didactique ou démonstratif d'une idée ou d'un savoir. Elles font surgir l'invisible, le nombre, le concept lorsqu'elles dessinent dans la vie, dans le vide d'une conférence ou d'un cours, un contour, une forme, une direction. Les mains transforment enfin la pensée en signe, manuscrite ou mécanisée. L'écriture, dans ses multiples formes, associe au plus près les opérations mentales, la mémoire, la construction d'un discours avec les gestes de l'inscription. Mais qu'est-ce que penser, sinon user des mains de l'intellect pour manier des objets, des questions, des problèmes, des abstractions ? Parler sur un mode réflexif du travail intellectuel en tant que tel et non de ses contenus, c'est raconter des chaînes d'opérations, c'est puiser dans le répertoire des gestes de métier et des techniques de son temps, les mots et les images pour le dire. On déroule une réflexion comme on manie un concept, on utilise des grilles et des leviers, on prend appui sur des autorités comme on établit des ponts entre différents champs. Donc le champ d'une anthropologie historique et comparative des représentations des arts de la pensée, telle pourrait être la direction vers laquelle se referme mon exposé. Ce champ pourrait s'appuyer sur la spécificité des lexiques, comme sur les configurations socio-culturelles qui définissent, pour un lieu et un temps, la hiérarchie et la formalité des pratiques. Il prendrait en compte les moments de rupture, comme les phases de continuité, les synchronies comme les déphasages entre l'histoire intellectuelle et l'histoire des techniques, la toile des métaphores tissée entre l'une et l'autre par des langues vernaculaires ou savantes en devenir permanent. Il ouvrirait l'analyse des opérations intellectuelles, le jugement, le raisonnement, l'imagination, l'abstraction, etc., au-delà des autorités philosophiques qui les ont formalisées, en leur restituant leur historicité, leur plasticité culturelle, et en déroulant les multiples fils des métaphores techniques qui les décrivent dans le langage ordinaire, comme dans le discours des praticiens des savoirs, réfléchissant sur leurs activités. Merci.